Salut, moi j'appelle parce que je viens d'aller voir le film Davos Porto Alegre et c'est pas mal du tout, on apprend plein de choses et en particulier Daniel, toi qui es interviewé dans le film, tu m'apprends que le budget participatif de Porto Alegre, c'est en fait la commune de Paris. Yeah, ouais, 1870. Et ça fait du bien quand deux parties agréables de ton cerveau se connectent. Oh là là, c'est jouissif. Alors, vous savez, en mai 68, sur les murs, quelqu'un avait écrit « En France, il y a 36 000 communes. Et nous en sommes à la deuxième. » Ah, et si Porto Alegre, c'était la troisième? Ah, ça fait du bien, l'utopie à portée de main. Allez, sans Dieu ni maître. Allez, à plus.
Daniel, j'écoute avec beaucoup d'intérêt tes émissions sur les flammes. Elles sont fructueuses comme toujours, mais je crois qu'il y a une remarque à faire et je crois qu'elle est aussi de taille. Bon, à quand une émission sur la catophobie qui adopterait le même ton, la même bienveillance critique, le même respect pour l'islam? 80% de Français, c'est du scato, 10% pratique. Bon, tout ça, c'est des chiffres. Et si tu allais voir ce monde-là, en l'approchant sans préjuger, enfin. Ce qui me semble que ce mépris sous-jacent, ben, je crois bien qu'il touche aussi la France d'en bas. Parce que bon, tous les cathos ne sont pas bas de plafond, ne sont pas intégristes, étriqués du bulbe, bigoréac, etc. Essaye de regarder, il y a de l'humanisme là-dedans, là aussi. C'était Philippe, à Marvejols, en Lozère.
Petit manuel à l'usage des gourous et de leurs disciples. Comment un bon gourou peut-il reconnaître un bon disciple? C'est très simple. Lorsque le gourou pète, le bon disciple dit toujours « Oh maître, ça sent la rose ». Remercions encore Gourou Bignol pour cette sage et profonde pensée.
Oui, bonjour, c'est Jean de Paris. Alors au sujet d'amalgame, vous savez dans Islamalgame, je voudrais soumettre à Monsieur Mermet cette citation. La distinction entre islam et islamisme n'a pas de raison d'être, l'islam étant par nature politique. Alors ça, c'est une déclaration de Annie Ramadan dans le, je crois, la Tribune de Genève en 2002. C'est le frère de Tariq Ramadan, comme vous savez, spécialiste du double langage, de l'entrisme. C'est un projet phare musulman, inspirateur du LEIF, l'Union de l'Organisation de l'Islam de France. Cette union qui siège au Conseil français du culte musulman, comme vous savez. Alors voilà, j'aimerais savoir ce que pense Monsieur Mermet. Est-ce qu'il s'agit d'islamalgame? Je sais pas. Je crois qu'il s'agit d'orthodoxie, tout simplement. Alors je voudrais aussi ajouter une chose. Je voudrais demander à Monsieur Mermet d'arrêter un peu sa condescendance vis-à-vis des auditeurs en supposant que lui sait ce que c'est que l'islam, pour avoir de grandes surprises. Probablement, et je suis pas sûr que ce sujet soit à sa portée.
Bonjour, oui, je voulais dire, en général, je trouve qu'il y a des présupposés idéologiques dans votre émission assez forts, mais c'est pas le plus important, et je pense que vous avez fait vraiment un travail de journaliste remarquable concernant Islamagam, et je crois que ce dont on souffle le plus aujourd'hui, c'est pas tellement d'avoir des gens de gauche ou de droite qui s'opposent, mais c'est la superficialité de la plupart des reportages sur des sujets sociaux comme l'immigration ou l'islam. Et cette superficialité est bien pire que les préjugés de gauche ou de droite. Et là, il y a vraiment un travail où on a laissé parler les gens, où on les a écoutés. Bon, un petit détail pour votre journaliste, l'Église catholique croit toujours au diable. C'est un dogme, mais elle a des exorcismes dans chaque diocèse. Allez, au revoir.
Et c'est ça qu'il fallait dire, il fallait parler du diable. Tempête dans la boîte vocale, trop d'honneur et trop d'indignité. Aujourd'hui, suite et fin de cette tentative téméraire de démontage de l'islamalgame, avec vos messages, beaucoup, beaucoup de messages nous sont parvenus tout au fil de cette série de reportages, mais des drôles de messages. C'est vrai que nous avons osé douter, c'est vrai que nous avons, avec Thierry et Dila, tenter de penser contre nous-mêmes. Ça fait du bien de temps en temps de se dire, et si on regardait les choses autrement, et si on avançait autrement. Ce qu'on a fait, c'est très simple, c'est vraiment d'aller voir là-bas si on y est, et d'essayer, mais vraiment tout simplement de comprendre, de faire comprendre, d'essayer de piger, et puis ensuite de rapporter en bon reporter ce que nous avons cru comprendre. C'est tout, c'est absolument tout. Il n'y a aucune, à part les présupposés idéologiques dont jamais nous ne pourrons nous séparer, puisque, comme disait Jean Dubuffet, nul n'est indemne de culture, hormis ça, la démarche était bel et bien ça, oser douter. Alors ça a marché parce que ça a ébranlé profondément les clivages, les positionnements des uns et des autres. Les uns ont réagi avec le sourire et d'autres avec beaucoup de rage. Mais je crois que là, en tout petit, il s'agit que d'une émission de radio, il ne s'agit pas certainement pas une étude approfondie, mais je crois que quelque chose d'un très très profond rejet, qui plonge ses racines dans nos mémoires historiques, se donne à voir, et comme disait Boris Vian, et à entendre. Et c'est ce qu'on va faire jusqu'à 18h dans la base, si j'y suis. Islam Algam, aujourd'hui, vos messages.
Oui, bonjour Daniel, c'est Khadija de Paris. J'ai écouté en fait votre émission d'hier avec un grand intérêt et concernant l'amalgame autour du foulard. Et je pense que cette affaire est une vraie source en fait d'interrogation sur notre capacité à accepter l'autre dans sa différence. Et là, j'ai envie justement en fait de vous livrer deux expériences que j'ai vécues moi personnellement en tant que musulmane qui porte le foulard. La première, c'était au niveau en fait professionnel, où à chaque fois quand je me présente pour des postes en fait de cadre, parce que moi-même je travaille comme en fait ingénieur dans des sociétés privées, malgré en fait mes diplômes et mes expériences, à chaque fois en fait mes entretiens en fait d'embauche se transforment à des débats autour de la laïcité et de la soumission de la femme en islam. Des débats où je devais à chaque fois toujours expliquer que le foulard pour moi est un moyen de mettre en avant mes capacités intellectuelles et que c'est aussi un choix vraiment individuel, que je l'assume et que c'était toujours un facteur clé dans ma réussite, ce ne serait-ce qu'au niveau de mes études. Ceci dit que malgré ces difficultés-là, donc j'ai pu toujours en fait accrocher poste de responsabilité dans des sociétés. Mais ce que je trouve quand même marrant dans cette histoire-là, c'est que dans ces mêmes sociétés-là, le soir, il y a des femmes de ménage qui viennent vider les poubelles et qui se baladent entre les différents bureaux et ça gêne vraiment personne. Et là, je me posais la question, pourquoi ? Là, j'ai compris en fait que ce qui gêne, c'est pas le foulard, mais c'est surtout de rentrer dans une relation d'égal à égal avec des modèles en fait de liberté et de modernité qui ne sont pas les modèles occidentaux. Et je pense que justement, c'est ce qui gêne, c'est de faire référence à des à des modèles de modernité et de liberté qui font appel à des cultures qui sont toujours perçues jusque-là comme inférieures ou irrationnelles, voire même parfois sauvages. Ma deuxième expérience, là, cette fois-ci, c'était en voulant militer avec une association de défense de droits de l'homme qui est très connue au niveau national et au niveau international. Et là, je me suis dit que normalement, l'affaire sera simple parce que quand même, l'éducation aux droits de l'homme passe par l'éducation à la différence et le respect de l'autre. Ma surprise fait grande parce que ma présence apparemment avec le foulard posait problème pour certains membres d'associations au point qu'ils ont démissionné. Pour d'autres, le foulard, c'est un signe de soumission qu'ils ne peuvent supporter. Pour d'autres aussi, le foulard porte atteinte à la laïcité. Il peut même occulter le message essentiel de l'association, surtout après le 11 septembre, chose qui est difficile à assumer.
Bonjour Daniel Mermet, c'est Christian de Nanterre. Et je me suis posé plein de questions après ton émission tout à l'heure. Et je suis assez mitigé, quoi. Et je me disais, mais cette nana là, qui portait le voile et tout, est-ce que c'est pas une provocatrice, hein? Je me demande vraiment ce qu'elle a dans la tête, hein. c'est quelqu'un, bon, on sent qu'elle est intelligente et tout, mais justement, elle est intelligente. Mais nous aussi, quand on était gosses, à 17 ans, on était intelligents. Bon, moi je me souviens au collège, on n'avait pas le droit de porter le jogging, même sans marque, et les baskets non plus. Et puis, ben, on se tenait à ça, et puis, on était réprimandés pour ça. Mais c'est pas tellement ça qui m'emmerde. C'est, j'ai l'impression, depuis une semaine que j'écoute toutes tes émissions, là, c'est que t'as l'impression, quand t'écoutes les appels sur le répondeur, j'ai l'impression que tu crées un combat de coq. Bon, il y a ceux qui sont pour, il y en a qui sont contre. Là, je comprends pas, quoi. Il y a un trouble quelque part. En fait, le problème, c'est même pas l'islamisme. C'est la délinquance. Et le terrorisme. C'est tout.
Et moi, je voulais parler d'un sujet tout à fait différent, qui est l'État qui est impuissant face au scandale de Metal Europe. Voilà, je suis vraiment excédé, écœuré par l'attitude du gouvernement, qui récupère tout et qui s'en va dire aux salariés qu'il y aura des actions en justice. Alors que le gouvernement favorise par la suppression de la loi de modernisation sociale toutes ces actes de délinquance financière. Voilà, j'aimerais que M. Sarkozy aussi s'attaque à ça, à la délinquance des adolescents et du monde oublié, mais aussi à la délinquance financière. Voilà, j'aimerais un peu qu'ils disent ce qu'ils comptent faire contre ça, car ça aussi c'est la délinquance. Voilà. Allez, ciao à toute l'équipe et continuez votre émission.
Je vous appelais parce que vraiment j'étais atterrée par l'émission d'hier. Je trouve ça bien contradictoire entre cette jeune femme qui nous parle de liberté de la femme grâce à son foulard, de protection, et puis l'autre qui nous dit que le plus grand péché c'est la fornication, alors que je sais pas, elle doit avoir 15-16 ans, cette jeune fille, c'est affreux. Enfin, je suis sans être partisane des mœurs débridées, je trouve que ces déclarations sont catastrophiques à cet âge-là. Alors, ceux qui font le bourrage de crâne, bravo, hein, c'est vraiment efficace. Voilà, c'est Elisabeth de Orléans.
Bonjour. Je réagis suite à l'intervention de votre émission de la jeune fille au foulard exclue de son école. Sans doute que c'est une victime innocente de la violence policière et scolaire. Elle devait être sûrement parfaite et ne dérangeait personne. Mais enfin, il faut dire que la victimite est une maladie en progression foudroyante. Plus personne n'est responsable de ses agissements et c'est toujours la faute des autres. Sans doute que son foulard lui tient le cerveau au chaud. Parce que quelle tristesse de voir une jeune personne sous l'emprise de pareilles idées. C'est peut-être sa croyance au diable qui est le diable. Où est Dieu dans ce fatras de conneries? Et quand cesserons-nous de le mêler à des interprétations déformées et dangereuses? Spiritualité et religion sont deux choses différentes. Et pour reprendre l'ancien adage, ni Dieu ni maître extérieur à soi. Et pourquoi tolérer dans une école publique des signes et comportements sectaires? Au nom de la liberté d'expression, peut-on laisser faire n'importe quoi? C'est dans le ventre mou des démocraties que s'installent des fanatiques qui en sucent le sang pour mieux les détruire. L'islam encourage trop souvent des comportements contraires aux droits humains. D'un côté, l'arrogance des mâles qui imposent leurs lois, de l'autre, des femmes soumises à la peur et à la bêtise. Le diable est dans ses petits souliers. Mais les religieux sont malins. Si on exclut les porteurs de foulards ou autres, ils créeront leurs propres écoles coraniques et cela sera pire encore. Peut-on mettre sur le même plan des écoles catholiques actuelles où on fout à peu près la paix aux jeunes et qui normalement, je dis bien normalement, véhiculent un message d'amour des évangiles avec des écoles islamiques que l'on sait particulièrement habiles en bourrage de crâne, pernicieux et dangereux? À bas les religions, vive l'humanisme éclairé par l'être suprême. Gabriel.
C'est incroyable tout ce que qu'un simple petit bout de tissu peut soulever comme débat et comme passion. Moi, je suis française, une vraie, là, comme j'ai entendu dire. Et j'ai choisi de devenir musulmane il y a quelques années de ça. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que peut soulever le foulard comme problème et comme débat. Et enfin moi, personnellement, j'ai pris le parti de pas le porter dans ma vie quotidienne où je fréquente en grande majorité des Français. Ce petit bout de tissu est devenu tellement l'incarnation de tout ce que l'islam peut poser comme problème à l'Occident et à la France. Et on s'est tellement focalisé sur cet objet que finalement, je pense qu'il a complètement perdu, enfin pour moi en tous les cas, son sens initial, qui était un sens peut-être d'émancipation de la femme et de protection, effectivement, comme dit la jeune personne dans votre émission. Et fonction qui remplit encore en pays musulman. Quand j'ai été en pays musulman, eh bien, le fait de porter le voile, ça a été pour moi beaucoup plus un facteur de liberté dans mes mouvements, tout ça, et de respect de la part d'autrui qu'une gêne.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf et Lula Tebi. Là-bas, si j'y suis, Islam Malgam, les messages. Flight number 2, arriving from
New York. Bonjour, ici c'est Olivier de Marseille. Eh bien, je tiens d'abord à me plus que féliciter. Je suis vraiment interpellé par votre émission sur l'islam. Vous osez en parler d'une façon simple pour, comme tu le dis, Daniel, un peu pénétrer notre ignorance que nous avons tous. Et humblement, il faut avouer que c'est par cette ignorance, je crois, qu'on engage des débats qui sont quelquefois houleux, voire incohérents, et que le racisme et des opinions xénophobes ou autres en sont aussi les aboutissants. Il me vient tout de même deux réflexions. La première, c'est que j'entends beaucoup de femmes, de voix de jeunes femmes, qui ont récemment pris pour décision d'entrer ou d'intégrer la religion musulmane avec beaucoup de joie et de bonheur et de liesse, semble-t-il. Je trouve tout de même qu'il ne faut pas être dupe lorsque l'on... j'interroge ces dames. Ne pas être dupe face à un dogme religieux qui, finalement, nous prive de certaines libertés. Et que pour la liberté, et tu le dis, Daniel, aussi, c'est un travail, c'est une réflexion, c'est oser douter de nos croyances et nos convictions. Voilà, je pense que ça peut ouvrir peut-être le débat autrement, et qu'il faudrait que l'on ose, nous, maintenant, citoyens, eh bien, beaucoup plus discuter avec notre environnement, notre entourage, des religions, parce que c'est vrai que c'est un débat qui a toujours été conflictuel, qui a fait malheureusement des traces de sang dans l'histoire de l'humanité. Il n'est jamais trop tard et il est peut-être temps de trouver d'autres alternatives. Voilà, et encore bonne continuation à la base si j'y suis. Olivier de Marseille. Au revoir.
Pour là, le rez-de-chaussée, il était comme ça, il brillait. Pour pas que le prince Charles glisse, ils ont mis du carrelage antidérapant. Sur le mur, ils ont mis de la faïence. Mais pourquoi attendre que le prince Charles y vienne pour faire ça?
Qui est arrêté dans votre appartement alors?
Alors, moi, mon frère et mon mari qui n'étaient pas là.
Ils se sont un peu arrangés pour qu'on ait tout à proximité, pour pas qu'on bouge trop loin d'ici.
Toute la journée, tu fais quoi alors?
Je fais rien. Rien du tout. Je feuillette les livres, je regarde un peu la télé, je fais mes prières, je fais un peu de ménage par-ci par-là, puis c'est tout.
On ne sait que non, mais c'est vrai qu'il y a des intégristes dans tous les domaines, et il y a même des intégristes dans la laïcité.
C'est ça. Ouais.
Je dis entre un homme et une femme, il y a le diable. La troisième personne, c'est le diable. Et le diable peut jouer dans la tête de cet homme et de cette femme pour qu'il puisse.
Toi, tu crois au diable?
Ah, bah, bien sûr.
Un cheval et une alouette. Un cheval de peur de défier de rejet, d'un côté, et de l'autre côté. Pardon. Une alouette de tolérance. C'est ce qu'on a cru comprendre dans les réactions que nous avons, qui nous sont parvenues sur le répondeur de la boîte si j'y suis, au 01 56 40 37 37. C'est quand même plutôt de la peur, de la crainte, des interrogations. Les hommes ont fabriqué Dieu sans se rendre compte, pardonnez-moi, les hommes ont fabriqué Dieu sans se rendre compte que la religion n'était qu'une pièce de leur invention propre à lier leur société. Les hommes ont fabriqué Dieu sans se rendre compte que la religion n'était qu'une pièce de leur invention propre à lier leur société. Je le relis deux fois, non seulement parce que j'ai un chat dans la gorge, mais c'est parce que c'est tellement clair que ça vaut le coup de se laisser éclairer par cette phrase de Montaigne qu'il a écrite donc au XVIe siècle. Dieu, selon Montaigne, la religion, selon Montaigne, voilà des inventions de toutes pièces inventées par l'homme. Pourquoi ? Parce que Dieu, la religion, voilà qui est propre à lier la société, propre à lier, à réunir, à organiser, à cimenter pour le meilleur et pour le pire. Et donc, pour Montaigne, si j'interprète bien, parce que j'interprète aussi, si mon exégèse est bonne, parce qu'il y a évidemment exégèse, eh bien, c'est là le moyen de la politique. Mais Dieu et la religion nous regardent et nous intéressent, toujours selon Montaigne, puisque c'est nous-mêmes qui l'aurions de toute pièce inventée. La religion religion, mais la religion rejette également ceux qui ne font pas partie de la religion. Le rejet de l'autre, l'exclusion de l'autre, le racisme, la xénophobie est le mal le mieux partagé au monde. On le sait, on l'a observé, on le sait tous. Souvent, celui qui fait l'objet du rejet, à son tour, rejette un autre individu ou un autre groupe qui, à son tour, etc., etc. Sommes-nous sûrs, bien sûrs, d'échapper à ce sens négatif? C'est pas sûr du tout. Faire du « eux » pour faire du « nous », faire de l'autre pour faire du « moi », qui échappe réellement à cette chose qui peut-être ne fait pas partie de la nature humaine, mais en tous les cas qui est observable partout. Rejeter l'autre est un diable malin qui change de masque et d'argument, qui brouille les pistes et les déguisements. Le diable se cache certainement dans les détails et il change de camouflage. Dans les arguments que les auditeurs ont laissés dans cette boîte vocale, cette petite tempête dans une boîte vocale, on trouve de drôles de formes d'un, comment pourrait-on appeler ça? Un nouveau racisme? En tous les cas, une forme de rejet, je le disais en commençant, qui plonge ses racines dans les profondeurs vraiment de notre inconscient historique et collectif. Tout à la fois. Et tout cela, évidemment, à l'insu de notre plein gré, comme dit l'autre. Nous sommes des d'honnêtes hommes, nous sommes d'honnêtes femmes qui ont évidemment le racisme en horreur, mais le diable est très malin et nous trompe et nous manipule beaucoup. Et dans ces messages, il y a des choses surprenantes parce qu'évidemment, l'arrivée de cet islamisme, l'arrivée de ce néo-fondamentalisme dans notre société, comme disait Louis-Roy, l'islam maintenant est passé à l'ouest, eh bien, il y a une grande perturbation qui renvoie à d'autres perturbations inconscientes et historiques. Voilà ce qui se donne à entendre à travers ces messages. Il fallait oser douter, nous l'avons fait, voici le bénéfice du doute.
بلادي لافريك دي نور راه لافريك دي نور ماشي تاع لي طماجور تقلب بقلب 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 عينيك تشوف لونفير دي ديكور من قدام ومالور بين لارمي وبني قندور سبعه والبوس سبعه والعبايا والشابور لي بانكيتون في جيرسيسي سون امو دي تور واحد عبد الامير والاخر عنده شيكور شاكان صابا شكور با بزوان دو ديسكور فرمي لي ستورا جيستو دون كون ريستو غامبير لي كونكيستادور فرمي لي ستورا جيستو دون كون ايفا بور اون الجيري سون ديزاكور فرمي لي ستورا Juste le temps qu'on reste par la peur des conquistes, on va faire une histoire. Juste le temps qu'on est d'abord, une Algérie sans désaccord. Mais beaucoup d'autres ont les mains sales. La terre s'installe comme une sorte de carnaval. La PRB par du SM Paris qui joue à la balle. C'est à celui qui dans la main sera le plus bestial. La politique divida et la vie.
ils vendent du coco. Ils achètent les arachides, la balance, les trucs et des deux côtés pèsent la menace. Tout ça, man a bad girl, man a bad bet, man a bad girl, man a bad bet, 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 man a bad bet. Dans le but du but, qu'étonnement se fermer les stores. Juste le temps, on reste en empire des conquistes, on va fermer les stores. Juste le temps qu'on est d'abord, une tragédie sans besoin pour fermer les stores. Juste le temps qu'on reste en empire des conquistes, on va fermer les stores. Juste le temps qu'on est d'abord, une tragédie sans besoin pour fermer les stores. Tu bois alors on boit de l'autre, fais des cafés morts. Et la maman ils sont dans les merveilles, les morts. Les vivants rêvent d'aéroport, certains se taisent, ils subissent le chaos qui met KO. Ils ont dit d'or, pendant qu'ils égorgent et déplorent, ils ont dit d'or. Et c'est pas de la métaphore, la parole n'est pas d'argent, le silence n'est pas d'or. Algérien, le mutisme, c'est la mort. Ouvrez les stores. J'ai pas le temps qu'on reste en empire, les conquistes là-bas. Ouvrez les stores. J'ai pas le temps qu'on est là-bas. Une Algérie sans désaccord. Ouvrez les stores. J'ai pas le temps qu'on reste en empire, les conquistes là-bas. Ouvrez les stores. J'ai pas le temps qu'on est là-bas. Une Algérie sans désaccord.
C'est comme ça que l'intégration se fait aussi, hein. C'est avec la musique, beaucoup avec la musique, avec un groupe comme celui-là, avec Nawa ou avec le Rai. Peu à peu, les choses se mélangent, mais pas tout, pas tout. Et puis d'abord, doivent-elles se mélanger les choses ? Pour plein de questions que cette question a soulevé. Je dis question et je répète question parce que il n'y a pas de véritables problèmes dans tout ça. Il y a questionnement posé depuis la nuit de l'histoire elle-même. Eh bien, les choses sont en mouvement, les peuples sont en mouvement, les uns vers les autres, les uns contre les autres, et c'est ce phénomène qui est en train de se produire. Il est ancien, il est lent, il ne va pas au rythme des médias, il ne va pas au rythme de ce qu'on appelle l'actualité, bien évidemment. C'est des choses lentes, d'un pas lent qui se produisent, mais il y a des manifestations qui parfois émerge, se donne à voir, ça a été le cas, par exemple, brusquement, avec le brusquement du 11 septembre qui ébranle, qui intrigue, qui a peur, et qui fait question à nous, une fois la question posée, une fois la question apparue, apparente, eh bien, de trouver du sens à ça. C'est tout ce qu'on peut faire, c'est penser l'événement, c'est penser ce qui se produit. Comment nous faisons, nous? Ben, on va avec nos pieds, on va voir des gens, on essaye de parler, de leur donner la parole, et de rapporter cette parole. Et voilà comment vous avez réagi à cette suite de reportages vraiment pas comme les autres.
Je vous téléphone parce que moi, ça fait 50 ans que je ne suis pas allé à l'église. Je suis catholique. Mais les religions me dégoûtent. Et généralement, quand je vais faire des courses, j'emporte le poste quand je tombe sur votre émission, parce que je l'écoutais. Mais là, je suis parti faire des courses, j'ai laissé le poste, parce que je suis écœuré par votre projet de prosélytisme pour l'islamisme. Parce que moi, à Savigny-sur-Orge, au domaine de Grandvaux, partout, il y a eu des feux. Et tous les feux qui ont été faits, que partout, c'est cramé. C'est rien que les HLM. Les copropriétés, il y a des glaces dans les halls qui font 7-8 mètres de haut. Il n'y a pas une glace qui a été pétée. Il n'y a jamais rien dans les copropriétés. Tout est pour les HLM. Alors moi, des gens qui bousillent uniquement chez les gens qui n'ont pas d'argent, j'en ai rien à foutre. J'espère qu'une chose, c'est que ça s'arrangera un jour. Enfin, moi, je suis déjà âgé, je verrai certainement pas. Mais j'ai peur pour mes petites nièces. Mais vraiment, qu'on fasse de l'attaque pour l'islam, alors là, ça me dépasse. Franchement, vous n'avez pas autre chose à faire que de faire ce truc-là. Il y a à faire, hein, autrement. Ne serait-ce que de faire en sorte qu'ils se redressent. Au lieu de, parce que nous, quand ils ont voulu qu'il y ait une mosquée chez nous, Hein, comme il n'y avait pas de terrain, ils ont brûlé le gymnase. C'est tout simple. C'est tout simple. Alors encore merci. Au revoir.
Je trouve que ce débat sur la religion et l'islam en France est extrêmement intéressant. Et mon expérience est inverse des réactions qui repoussent l'islamisme. C'est-à-dire que je suis français, j'ai 57 ans, j'ai été élevé dans la religion catholique. Et au contraire, ce que je trouvais anormal quand j'étais plus jeune, c'est qu'il n'y avait en France que des églises. Alors que je m'apercevais qu'il existait des tas d'autres religions comme l'islam, comme les hindous, comme le bouddhisme, comme tout ce qu'on voudra. Et j'aurais au contraire rêvé que, au lieu qu'il y ait une église dans chaque village, qu'il y ait une église plus une mosquée, plus un temple bouddhiste, etc., etc. De manière à ce que il n'y ait pas justement une seule religion qui domine les Français ou la France ou l'Occident, mais que toutes les religions soient représentées plutôt à part égale. Et mon idéal, ce serait ça. Ce serait soit qu'il n'y ait plus du tout aucune église, ni aucun temple, ni aucun lieu de prière contre aucun dieu, parce qu'évidemment, je ne crois complètement plus en Dieu. Mais qu'au contraire, il y ait je dis n'importe quoi, mais qu'il y ait à ce moment-là pour chaque religion et dans chaque village ou chaque grande ville des lieux pour tous les cultes, parce que tous les cultes sont égaux, ce sont des croyances qui sont respectables. Voilà ce que je voulais dire et au revoir.
Oui, bonjour, c'est Philippe dans le Var. Ah, l'islam, Daniel. J'ai entendu des témoignages de nouveaux convertis à l'islam, français ou maghrébins. Étant moi-même un laïc athée, je demande à ceux-là, à toi-même et tes intervenants, de me citer de par le vaste monde un pays islamiste où un semblant de démocratie existe actuellement. Rappelez-moi vite, je suis impatient de vos réponses.
Oui, bonjour Daniel. La religion est une chose personnelle qui ne doit pas empiéter sur la liberté des voisins. Enfin, ça, c'est mon avis et celui de beaucoup de personnes. Les médias et actuellement toi, en fait, trop. L'impression est que vous voulez à tout prix nous faire penser comme vous. Et non. Le résultat est contraire. C'est comme un moustique qui agace au début, on l'écarte. À la fin, il nous agace tellement qu'il est tué, écrasé ou avec un insecticide. Quand je pourrais me rendre dans certains pays islamistes sans être obligé de mettre au mieux un foulard, je tolérerais foulard et djellaba ici en France. La France n'est pas et ne sera pas islamiste, car vois-tu, elle aime trop la liberté. Vas-tu aller à Porto Alegre cette année, avoir des nouvelles des sans-terres et du sous-commandant sera autrement intéressant que tes émissions sur l'islam. Je n'ai pas attendu le 11 septembre pour aborder d'autres religions et lire, entre autres, le Coran. Nous sommes grands, Daniel, et pas trop ignares, vois-tu. On ne fait pas d'amalgame, on se base sur notre vécu quotidien, malheureusement. Eh oui, allez, au revoir, bon courage.
Toujours les mêmes partis qui font la guerre à l'île comme si je m'en pourrais l'irriter ou les racer. Inismatique bourgeoisie, mes filles baissent la tête pour me crasser. Ou elle m'a dit plus se me passer. Une jour télévision qui de la grève des enseignants, on les traite de feignants. Je m'en fous pour le fardin mental, j'ai un costaud pour le football, car l'Algérie malade mentale. أنا يا اليوم جبوف تعرف اليوم كل شي خوفي كل شي كذب كل شي فوق كل وين ما بيغيت يسمع لزين كيلو في ساشيت بار كيلو وطاقوس ان بلاس دو ستيلو Arabophone, francophone, il vient du Caire ou de la Sorbonne, roi de l'Pirum, Polishkun. Qu'aiment les jeunes, faites des parts, et les vieux dans les bars, les rues pleines de barbares. Qu'aiment régifle les mosquées, la moitié est endormie, je m'envoie dans son livre d'art.
Bonjour, c'est Claire Marin, d'Heureux sur le Long. Salut Daniel, c'est très honorable de ta part, dans un but de meilleure compréhension mutuelle, de nous présenter les différents aspects de l'islam, dont certains plutôt sympathiques. Je ne doute pas de tes bonnes intentions, mais pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi. Le sujet est vaste, mais tes émissions sont trop complaisantes. Pour moi qui suis athée, se référer à des prophètes ou à des dogmes, à des livres saints, pour diriger sa vie et celle des autres, c'est la négation de l'esprit critique et de la raison. L'islam semble un recours contre la violence. Dans nos banlieues agitées, en fait, c'est un pouvoir politique insidieux qui ne peut s'accorder avec la République et la démocratie, pour beaucoup de raisons, entre autres l'infériorité dans laquelle il maintient les femmes, qui sont la moitié de l'humanité. Quand j'entendrai tes intervenants condamner fermement les méthodes barbares en vogue en Arabie et ailleurs, je commencerai à y croire. J'attends de toi maintenant de consacrer autant de temps, autant d'émissions à la libre pensée, à l'athéisme, dont on ne parle jamais, comme si croire en Dieu était une fatalité. J'en ai marre d'entendre parler de Dieu, du paradis et de toutes ces fariboles sorties de l'imagination de l'humanité par peur de la mort. Salut Daniel, merci.
Ouais, salut à tous, salut Daniel. C'était pour apporter peut-être, je sais pas moi, ma réflexion sur une question que tu posais justement par rapport à l'émission sur l'islam, sur les réactions aux répondeurs de ces gens qui brandissent la laïcité pour justifier leur extrémisme. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'en termes de croyance, on peut tout à fait croire à la République comme on croit en Dieu, par exemple. C'est-à-dire que moi, je pense que croire, c'est s'asseoir. C'est-à-dire c'est ne pas mettre le doute. C'est-à-dire que on peut tout à fait, moi, je suis sensible aux valeurs républicaines et à la démocratie. Mais c'est tous les jours. On n'a pas à s'asseoir sur ses lauriers à ce niveau-là. Et les gens qui brandissent la laïcité pour se justifier, ce sont des gens qui ne veulent pas la voir évoluer, cette laïcité. Qui ne font pas avancer les institutions. Ils se réfugient comme les gens qui croient fermement en leur Dieu, qu'importe la nature de ce Dieu, qui se réfugie quand ça va pas bien pour justifier de l'existence, qui se réfugie dans leurs croyances. Il y a des grands, nous avons de grands laïcs en France, des gens qui brandissent, qui croient en la République. Et ces gens-là sont tout aussi dangereux que ceux qui brandissent l'islamisme ou le catholicisme. Il y a des fanatiques partout, dans la République, dans les religions, et il y a des gens dans les religions et dans la République qui pensent que le doute est très important et que c'est comme ça qu'on avance, qu'on fait évoluer les sociétés, surtout dans nos pays qui sont soi-disant avancés au niveau république et au niveau démocratie. Alors justement, je dis à ces gens-là, faites attention, grosse bise, et surtout la fraternité, hein, et la fraternité en toute sécurité. Gros bisous, ciao ciao.
Nous sommes des messagers.
Et les messagers, c'est pas nous, c'est pas là-bas que j'y suis, hein. Pas confondre. Ce sont des gens qui se prétendent les messagers d'un message du prophète. Il ne faut pas confondre entre ce que nous montrons et ce qui se passe. Nous sommes les messagers de ces messagers. Ne croyez pas que nous croyons tout ce que nous vous montrons. Nous montrons d'abord et puis nous croyons, nous avons nos croyances et puis il y a les vôtres et on est effectivement là en patauge dans les croyances, mais c'est une vieille coutume de patauger dans la croyance. Souvenez-vous, la raison était une déesse, la déesse raison, et notre Cornelius Castoriadis aimait à répéter que la raison n'était après tout jamais qu'une folie qui avait réussi. Tolérance, rouspétance, convergence et allégeance, voilà ce qu'on entend sur le répondeur de là-bas si j'y suis depuis quelques jours suite à cette série d'émissions qui finit aujourd'hui, Islamalgam.
Bonjour Daniel, je t'appelle, j'aime beaucoup ton humanisme, mais j'ai du mal à comprendre toutes tes positions par rapport à la religion musulmane et par rapport aux musulmans en général.
parce que ça me semble être biaisé. Ça, tu déplaces les problèmes. Le problème, c'est pas les pauvres petites nanas qui, pour vivre leur vie de femme, sont obligées de porter un foulard pour que leurs frères, leurs cousins, ne leur crachent pas dessus, ne les traitent pas de salopes, ne les violent pas. Enfin, en gros, les respectent. Ce qui est grave, c'est ces hommes-là. Ces hommes-là à qui j'ai eu affaire personnellement en étant prof dans des super méga zèbres, violences et tout, qui sont pleins de haine et qui font sombrer toute la France vers une sorte de misogynie qui est en train de gagner du terrain, misogynie larvée qui gagne du terrain partout. Ils sont pleins de haine, ils regardent les femmes comme des animaux, ils nous insultent, je crève ta mère, la pute et tout. On n'en peut plus de ça. Et toutes mes copines, toutes les jeunes femmes que je connais qui sont dynamiques, cultivées, qui ont vécu à l'étranger, j'ai vécu 4 ans en Angleterre, elles en ont marre de ça. On a franchement la haine. Ces mecs-là, il faudrait les neutraliser. Comment faire à chaque fois qu'ils disent une parole de haine contre les femmes, généralement quand ils sont en bande, parce qu'en plus ce sont des lâches, comment faire pour qu'ils arrêtent ça? C'est à eux qu'on devrait foutre pas un foulard, mais carrément un sac poubelle sur la tronche pendant un mois. Dès qu'ils profèrent une parole de haine contre une femme, ou qu'ils lèvent la main ou la voix dessus. Combien de temps va-t-on supporter ça encore en France? Ce n'est pas admissible. Ce n'est plus admissible. Maintenant, quand on est une petite nana, on a peur de prendre le métro. On en a marre. Mais grave! Donc voilà ce que je voudrais dire. Donc ne déplaçons pas les problèmes et disons qu'une jeune femme maintenant, dynamique, jolie, cultivée, dans la société française à Paris, ne peut plus vivre la vie qu'on vivait il y a 20 ans ou 25 ans, une vie d'insouciance où on pouvait vivre sa vie de femme normalement, comme on la vit en Angleterre, à Londres, enfin à peu près partout dans le monde civilisé. Donc voilà, on retombe dans une sorte de barbarie et d'animalité. Et c'est ça, je suis très énervée contre ça, mais très très énervée et très triste. Et comment est-ce qu'on va élever nos enfants et nos filles là-dedans? Et j'ai beaucoup de peine pour toutes les petites nanas musulmanes dont les frères, les cousins les oppressent au quotidien. Et ça, quand j'étais prof, je trouvais ça insoutenable. Donc il faut qu'elles se sortent de là. Et si porter le voile, c'est leur seule façon pour pas se faire tripoter, insulter et tout, eh ben qu'elles continuent à le porter. Voilà.
Hey, tonton! Les cabas, ils sont trop lourds!
Allez, montez dans la voiture,
j'ai dit. Ouais, Bill,
monte,
elle
monte, Bill, elle mouille. Hey, Atmel! Allez, monte, monte. Allez, on y va, on y va. Hey. Hey, mes Karim, pour ton du blé.
Pour du blé.
Pour tous les Miss Moore. Vous l'avez vous blédi. Un 115 break chargé, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein gasoil et gazouze pour pas flancher. Bilel, la pisser, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais, c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Vito? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu tard, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout à Tati. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Sur la plage à bouler mat avec mon zinc et son derbouka. Dans la main, un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de zizitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zerwania. On parle de tout et de rien, des Nike Air au visa, de la traversée du désert au Boukoustous de Yema. Et mon cousin me dit,
Karim, kiff le zetla.
Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec deux trois blédards, on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit,
moi je t'ai pas vu cette télévision.
Et l'autre me demande,
Sahat Alaf Michael Jackson.
Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinar, connard. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et Dieu l'accueille. D'autres la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le thermomètre. Et si j'avais assez d'oseille, j'emmènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Des 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité,
Ardeya,
content de revoir mes potos
et ma chèvre.
Pendant deux semaines,
j'ai mangé que de la charba. J'irai finir mes jours là-bas, Inch'Allah. Je vais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon croix tiers alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. Bon, je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Je crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi?
Faire de la retape pour l'islam, alors ça me dépasse. Elle disait tout à l'heure, la dame sur le répondeur, c'est un argot daté, d'ailleurs elle a dit qu'elle avait de la bouteille. Et ça c'est un autre argot ce qu'on vient d'entendre là, hein. Et voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça se donne à entendre sur le répondeur. Encore une petite pelletée, on n'a plus beaucoup le temps, encore une petite pelletée de messages, de vos messages. Le voile pour les hommes, à un bout de ce petit paquet de messages, et à l'autre bout, contre la circoncision.
J'aimerais beaucoup savoir pourquoi personne ne parle d'hommes voilés. Et ça me pose beaucoup de questions. Voilà, merci.
Ça faisait un moment que je n'avais pas écouté ton émission, Daniel. Non, mais quel jeu tu joues, là? C'est profond, il a totalement raison de prendre cette décision. Et cette petite conne, j'espère que Dieu va bien la protéger de la fornication, comme elle dit. Non mais où tu es là? Est-ce que, et c'est ça cette préconisation du droit à la différence. Là, moi, j'en connais des maghrébines. Je peux te dire que le droit à la différence, elles n'en veulent pas parce qu'elles savent trop bien ce que ça veut dire. Mais c'est incroyable ce que j'entends là. Tu vas quand même pas verser après avoir été anticlérical. Tu vas pas verser dans l'islam maintenant. Incroyable.
Salut Daniel, écoute, depuis 10 jours là tu me fais grincer des dents, mais continue, va, parce que quand même tu nous fais réfléchir. Mais tu vois, je pense que la solution n'est pas sur un repli communautaire. Et le monsieur qui disait dans un message que les couples mixtes avaient beaucoup à dire là-dessus, je pense qu'il a raison. Moi, mes filles qui sont issues de couples maroco-français m'ont vraiment donné souvent une belle leçon de tolérance, à moi qui suis une laïque convaincue. Et voilà, j'ai vécu 18 ans au Maroc, maintenant je suis en France depuis 6 ans, on est tous rentrés. Et c'est vrai que je me rends compte que mes filles ont suppuisé dans les deux communautés ce qu'il y avait de riche et de bien, et que elles sont vraiment une belle leçon de tolérance, et très souvent, elles me réveillent un petit peu. Et je crois vraiment que là, il y aura beaucoup à dire, parce que ces enfants issus des deux communautés sont vraiment au cœur du problème et savent très bien observer les choses et prendre ce qu'il y a de bien. Voilà. Allez, salut Daniel, c'était Bernadette.
Oui, que je t'entends parler du problème du voile, du foulard, tout ça et tout. Bon, les jeunes filles, si tu veux, la porte le foulard. En soi, je pense que ça évite surtout de parler de l'essentiel, parce qu'un foulard, ça se met et puis ça peut s'enlever hein, dans sa vie. Tandis que pour moi, le vrai problème sur l'islam et puis d'autres religions, c'est la circoncision des enfants. Parce que ça, je ne vois pas de quel droit la République elle laisse stigmatiser des enfants à partir, si tu veux, d'une idéologie mythologique et ancestrale. Si tu veux, on doit préserver l'intégrité de la personne humaine, ne serait-ce que physique. On lui donne l'éducation qu'on veut, ça, on peut pas l'empêcher. Et à l'âge de raison, l'enfant, enfin, donc le jeune homme ou l'adulte, choisit, je veux être musulman, mais s'il ne veut plus, comment tu feras? Imagine, par exemple, qu'il ne serait pas circoncis à la naissance, tous ces enfants-là. Combien il irait se faire circoncire à leur majorité? Là, c'est un problème majeur. On n'a pas le droit de mutiler quelqu'un sous prétexte que c'est ancestral, c'est ceci, cela. Voilà, je te remercie, Daniel.
Le diable est la troisième personne entre un homme et une femme. C'est triste d'entendre la jeunesse parler ainsi. Et qu'importe que la fille soit musulmane ou juive ou chrétienne. Briser les tabous de la sexualité, aimer la vie sous toutes ses formes, goûter tous les plaisirs de la chair et de l'esprit, c'est le message que nous adressait Averroès dans le film de Chahine, Le Destin. Une magnifique manière de nous prouver que la religion n'est pas toujours synonyme d'obscurantisme. Alors, si le diable est la troisième personne entre un homme et une femme, vive le diable.
Et relisons le Cantique des Cantiques. Encore quelques messages, peut-être un seul, sur le répondeur de la basse suite, dont je rappelle encore une fois le numéro 01 56 40 37 37, en forme de conclusion peut-être.
Salut Daniel, c'est Mohamed de Dreux. Moi, je suis de confession musulmane. Le 11 septembre, il a pas arrangé mes affaires en tant que musulman et en tant que français d'origine étrangère. C'est moins qu'on puisse dire. Moi, ce qui m'a apporté Ben Laden et puis ces gars qui se sont jetés contre ces tours et tout le reste et tout ce qu'on nous a montré, et ben c'est que quand je vais au boulot, je suis un Ben Laden potentiel et un terroriste potentiel, alors que j'ai rien demandé à personne. Quand je vais dans l'administration, on me regarde de travers et on me montre clairement qu'on me déteste et que on aimerait bien peut-être des fois ma mort aussi. J'en sais rien. Moi, j'accepte tout le monde et puis j'ai envie qu'on me laisse tranquille, qu'on arrête de me bassiner, qu'on arrête de me prendre la tête. On est en train de faire de moi un salopard parce que je fais la prière, parce que je crois en Dieu. On est en train de faire un débat intellectuel par rapport à l'islam. Faut pas oublier que l'islam et toutes les religions d'ailleurs, c'est d'abord une question de foi. Je demande à personne de me comprendre et je demande par contre aux gens de pas rester un petit peu, enfin, dans leur discours intellectuel. C'est bien plus que ça. C'est avant tout une foi et puis voilà quoi. Moi, j'ai envie de pratiquer la chose tranquillement. C'est mon mode de vie. Je suis bien comme je suis. J'aime tout le monde et puis voilà. Ciao, ciao.
Merci à tous, merci. Évidemment, vous avez compris qu'on ne pourra jamais passer tous les messages que vous avez adressés. On les a choisis en pensant que c'était un échantillonnage représentatif à peu près de ce que vous avez dit dans cette tumultueuse boîte vocale. Beaucoup de livres sur ce sujet. Je rappellerai rapidement Le choc de l'islam de Marc Ferraud et Odile Jacob, L'islam mondialisé d'Olivier Roy au Seuil, La France des mosquées de Xavier Ternisien chez Albin Michel, L'islam des banlieues de Dounia Bouzard chez Syros, L'islam en question, un dialogue entre Alain Grech et Tariq Ramadan chez Actes Sud, Musulmans et républicains Jocelyne Césari chez Complexe, Islam contre Islam, Manière de voir, numéro supplément du Monde diplomatique de juillet 2002 sur ce sujet, et puis un dictionnaire mondial de l'islamisme chez Plomb. Il y a beaucoup d'autres ouvrages sur ce sujet. Technique aujourd'hui, Yvine Caron et Olivier Daligo, assistante Joël Levert. Celui qui s'est occupé de tout ça, c'est Christophe Imbert, le chef du répondeur. Assistant de réalisation, Koy Nguyen, le répondeur de là-bas, si j'y suis, je le répète encore une fois, c'est le 0156 40 37 37, le mail daniel.mermet@radiofrance.com, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.